Et je voudrais vous lire un texte, mais j'ai peur de vous lire le texte. J'ai peur que vous ne bouchiez vos oreilles ou fermiez la Bible avant que je n'arrive au bout. Parce que c'est un texte qui remue et auquel on n'est pas habitué, surtout quand on le regarde de plus près. Alors, à moins que vous ne vouliez que le culte se termine tout de suite, dites-moi que vous allez écouter jusqu'au bout. Bien. Nous allons le lire dans le livre du prophète Sophonie. Il a été écrit 600 ans avant que Jésus-Christ ne vienne, c'est-à-dire quelque chose comme 2600 ans depuis aujourd'hui. Dans les 12 petits prophètes, vous avez en plein milieu d'eux le prophète Sophonie. Premier chapitre, deuxième verset. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Ce n'est pas M. Go ni Christian. Dit l'Éternel, je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Ça fait deux fois qu'il signe. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. Alors c'est à partir de maintenant que je voudrais que vous fassiez bien attention à l'enchaînement des choses. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. En général, d'autres versions disent en jurant tantôt par l'Éternel, tantôt par leur roi. C'est-à-dire, cœur partagé, on est des deux côtés à la fois. J'exterminerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et ceux qui ne le consultent pas. La plupart des versions, au lieu de mettre « ne le consulte pas », disent « ceux qui n'ont pas souci de lui ou ne s'enquièrent pas de lui ». J'aimerais vous parler de l'indifférence ce matin. L'indifférence cause généralement beaucoup de dommages dans les relations des hommes entre eux. Il y a bien des familles où l'un des membres ou plusieurs membres ont souffert de l'indifférence de quelqu'un plus. C'est quelquefois pire que le conflit ouvert ou que l'opposition. Mais si l'indifférence cause beaucoup de dommages entre relations entre les hommes, elle cause beaucoup de dommages dans les relations entre Dieu et les hommes. Pour avoir été indifférent, nous l'avons crucifié. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous étions indifférents et nous l'avons crucifié. Le passage que nous venons de lire dans la Bible nous décrit la progression de la perdition ayant pour origine l'indifférence. On part de l'indifférence et on termine par l'adoration de Baal. Baal, ça veut dire maître et seigneur. Possesseur, maître et seigneur. Et Dieu, lui, part du plus haut et il descend de ligne en ligne. Vous n'avez peut-être pas bien remarqué cela, mais je vais vous le faire remarquer. Dieu part des adorateurs de Baal et il décortique petit à petit les causes et les conséquences. Et il termine par la plus petite des causes, l'indifférence. Par exemple, pourquoi y a-t-il l'adoration de Baal? Eh bien, parce que il y a eu des prêtres de Baal. et des ministres de Baal. Pourquoi y a-t-il eu des prêtres de Baal et des ministres de Baal ? Parce que le peuple s'est prosterné sur les toits devant l'armée des cieux. Ils adoraient les étoiles, le soleil, la lune. Ils adoraient tout ce qui bougeait et tout ce qu'ils voyaient dans le ciel. Ils se sont mis à devenir idolâtres et ils ont favorisé la venue des prêtres de Baal qui, à leur tour, ont favorisé le culte de Baal. Et pourquoi sont-ils montés sur les toits et ont-ils adoré l'armée des cieux ? Parce que leur cœur était partagé. Tantôt ils écoutaient Dieu, tantôt ils écoutaient leur roi. En fait, il s'agit d'un roi impur, mais ils ne savaient pas trop de quel côté ils penchaient. Ils avaient un cœur partagé. Et leur cœur partagé les a conduits à monter sur le toit et à adorer les étoiles, et puis, etc., etc. Et pourquoi avaient-ils un cœur partagé ? Parce qu'ils se sont détournés et lassés de Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils étaient fatigués de ce que Dieu leur proposait. Alors leur cœur s'est partagé. Et pourquoi se sont-ils détournés de Dieu ? Parce qu'ils ne le cherchaient pas. Ils n'avaient pas la curiosité de chercher Dieu, de savoir qui était Dieu. Et pourquoi ne cherchaient-ils pas Dieu ? Parce qu'ils étaient indifférents. Vous voyez, j'espère que vous suivez bien mon raisonnement, Dieu démontre qu'en partant de l'indifférence, on peut arriver à changer son Dieu et avoir Baal à la place du vrai Dieu. J'ai dit une fois ici, et je vais le répéter, mais sans aller au fond des choses, on voit toujours dans la Bible que ce que les hommes refusent à Dieu, ils le donnent au faux Dieu. Ça, c'est une chose. Ils ne voulaient pas servir Dieu et avoir un culte pour Dieu, mais que ne faisaient-ils pas pour les faux dieux ? Ce qu'ils refusaient à Dieu, ils le donnaient à Baal. Il ne s'agit pas d'avoir des actes de foi ou de piété ou des paroles religieuses. Il s'agit d'avoir un cœur qui se soucie de Dieu, d'avoir un cœur qui s'enquiert de Dieu. Si je n'ai pas un cœur qui se soucie de Dieu ou qui s'enquiert de Dieu, et si je ne le cherche pas avec ardeur et avec persévérance, c'est parce que j'ai un cœur indifférent. Que personne ne dise « moi, je ne cherche pas Dieu parce que je n'ai pas le temps ». Je suis très pris par ailleurs, je suis très occupé par ailleurs. Ça n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que j'ai un cœur indifférent. Car si mon cœur n'était pas indifférent, je renverserais les priorités, je modifierais les priorités et je chercherais Dieu. Mais dès l'instant qu'il y a de l'indifférence dans mon cœur à l'égard de Dieu, tout le processus va se mettre en marche pour que je m'éloigne de plus en plus et que peut-être je termine par remplacer Dieu par Baal. Je vais donc poser 4 questions. La 4e me servira de conclusion. 4 questions qui sont celles-ci. Pourquoi suis-je indifférent ? Ceux qui ont cherché Jésus l'ont-ils trouvé ? Qui est invité à chercher le Seigneur ? Peut-on faire marche arrière et redevenir indifférent ? Pourquoi suis-je indifférent ? Parce que le monde a triché avec moi. Il a triché avec moi. Il m'a fait croire qu'il valait beaucoup mieux la réussite, le gain, la conquête, le pouvoir, la possession des biens terrestres que la connaissance de Dieu. Il a triché. Il a triché avec moi en me disant « Pourquoi sauver son âme quand on peut gagner tout le monde ?» Alors que la Bible dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? » mais le monde a triché avec moi. Et il ne m'a pas présenté les choses comme elles sont en vérité. Il m'a dit, pourquoi sauver ton âme, puisque tu peux gagner tout le monde. Et il y a bien des gens sur la terre qui s'imaginent que parce que leur compte en banque se bonifie, leur pouvoir prend de plus en plus de place et ils sont de plus en plus éternels. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, a dit Jésus, à un homme qui raisonnait ainsi. Le monde a triché avec moi lorsqu'il m'a commenté le verset qui fait peur à tant de gens de Matthieu 6, 33. Ne le cherchez surtout pas, je vais vous le dire. Il fait peur ce verset. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et le monde a triché avec moi parce qu'il ne m'a pas présenté la vérité sur ce verset. Il m'a dit, tu vois que Jésus entend bien que pour le suivre, il faut tout lui sacrifier. Il veut tout. Lui d'abord, rien que lui. Je me souviens d'une brave sœur ici qui venait, qui avait l'air de beaucoup aimer la parole de Dieu, qui un jour m'a dit, vous savez, cette prédication, je l'ai écoutée, je l'ai réécoutée, je l'ai donnée à des voisins, elle nous plaît. Et puis un jour, elle m'a dit, je ne peux pas revenir parce que je veux vivre ma vie. Ça veut dire quoi ? Je veux vivre ma vie. Le monde a triché avec elle. Il a triché avec moi. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais dites-moi, est-ce que ça veut dire que Jésus veut nous priver de tout le reste ? Puisqu'il dit, tout le reste vous sera donné, ça veut bien dire qu'il n'est pas contre. Ce que Jésus veut dire, c'est pas que vous soyez privé de tout le reste. Il veut dire que ce qui est important dans la vie, la priorité, la première des priorités, c'est de chercher Dieu. Après, les choses peuvent venir pour vous. Après, vous pouvez penser à la construction de votre villa, de votre piscine. Dieu n'a jamais dit horreur à ceux qui ont une piscine. Dieu a dit d'abord chercher le royaume de Dieu. Et le monde me ment, il m'a triché, il triche, il me dit, le Seigneur, il veut tout. Si vous voulez servir le Seigneur, il faut oublier et laisser tout le reste. Non, il n'a jamais dit cela, il a dit qu'il me donnerait tout le reste, selon sa science, selon sa préscience, selon sa conscience. Il sait si j'en ai besoin, si c'est utile, peut-être que ce n'est pas utile pour moi, peut-être que la piscine, je vais m'y noyer dedans, alors il va s'arranger pour que je ne l'ai pas. Mais il veut que je cherche le royaume de Dieu, d'abord le royaume de Dieu. Tout à l'heure, on a entendu parler du psaume 23, qui est un très beau psaume, mais le monde triche. Quand je lis le psaume 23, le monde a triché en me le commentant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors que dans ce psaume, il faudrait dire ceci, si je ne peux pas dire la première phrase, je peux déchirer tout le reste. L'Éternel est mon berger. Tout ce qui suit, c'est pas la peine que ce soit écrit si je ne peux pas dire la première phrase. Vous me suivez, frères et sœurs ? Si dans votre Bible, il n'y a pas écrit « L'Éternel est mon berger », eh bien, ce n'est pas utile que vous lisiez tout le reste. « Je ne manquerai de rien, il me conduira, il me dirigera, il sera avec moi quand je serai vieux, il me soutiendra, il me sécurisera, il fera partir les loups ravisseurs, il se mettra entre mes adversaires et moi, à condition qu'il soit mon berger. » Et s'il n'est pas mon berger, vous pouvez prendre un stylo et rayer tout le psaume 23 de votre Bible. Mais le monde triche, parce qu'il me dit, voyez, tout le monde peut dire l'Éternel est mon berger, c'est écrit, tout le monde peut le lire. Ceux qui ont cherché Jésus, l'ont-ils trouvé ? Puisque je veux vous démontrer que nous devons chercher Jésus par conscience, nous devons chercher Jésus parce que nous ne sommes pas indifférents, nous sommes curieux de le connaître, nous sommes curieux de l'avoir plus près, de nous approcher de lui. Ceux qui ont cherché Jésus l'ont-ils trouvé? C'est vrai que dans la Bible, quelquefois, Jésus s'est caché. Même souvent, c'est écrit. Mais il s'est caché de gens qui voulaient le faire mourir. Hérode a cherché Jésus. Lui ne l'a pas trouvé. Mais si Hérode n'a pas trouvé Jésus, Zachée a trouvé Jésus. Vous savez, cet homme petit qui ne voyait rien derrière et qui voulait voir Jésus passer, mais il n'arrivait pas à se faufiler au premier rang, et il est monté sur un arbre, caché dans un arbre, il voulait voir Jésus. Et il a vu Jésus. Ceux dans la Bible qui ont cherché Jésus ont trouvé Jésus. Une femme qui s'est approchée, tout le monde bousculait Jésus, et plus ou moins parce qu'il voulait être près de lui, mais elle, elle l'a touché différemment parce qu'elle avait besoin de toucher le vêtement de Jésus. C'était important pour lui, pour elle. Elle avait imaginé que si elle touchait le vêtement, elle serait guérie. Et depuis des années que les médecins lui donnaient de bonnes, mauvaises nouvelles sur sa santé, elle s'est dit, si je pouvais toucher le vêtement de Jésus. Et ils étaient des milliers à toucher cela. Mais elle, elle a touché. Et Jésus s'est tourné vers elle. Est-ce qu'il y a dans la Bible une personne qui a pu écrire ou a pu dire, ou dont vous pouvez analyser la chose suivante? Elle a cherché Jésus et elle ne l'a pas trouvé. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a dans l'Église, dans l'Assemblée, dans votre famille, dans votre entourage, dans vos voisins, dans vos connaissances, une personne qui peut dire « Moi, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai cherché Jésus, eh bien non, je ne l'ai pas trouvé. » Parce que Jésus a dit « Celui qui cherche, trouve. » C'est Jésus qui l'a dit. « Cherchez et vous trouverez. » Donc, si Jésus l'a dit, est-ce qu'il le met en pratique? Est-ce qu'une personne qui cherche Jésus va rencontrer Jésus? Oh, je sais bien qu'il y en a qui le cherchent tellement vite que il faudrait un miracle extraordinaire pour qu'il trouve Jésus. Il vaudrait même mieux qu'il dise « je ne le cherche pas » que de le chercher à la vitesse à laquelle ils le font. Jésus a tout fait pour être trouvable. Il a tout fait. Et quand des gens se sont approchés des apôtres en disant « Nous voudrions voir Jésus, nous sommes venus de loin, nous voudrions voir Jésus », il n'était pas loin. Ils ont vu Jésus. Et toute personne des plus malheureuses, aux plus angoissées, aux plus souffrantes, aux plus abandonnées, ceux qui ont cherché, quand c'était le pauvre lépreux que personne ne voulait aider, que tous fuyaient, quand c'était le pauvre aveugle que tous faisaient taire et à qui tous disaient « Tais-toi, tais-toi !» Eh bien, Jésus a toujours été là. Ceux qui ont cherché Jésus ont trouvé Jésus. Les pécheurs ont trouvé Jésus. Les criminels ont trouvé Jésus. Quand on en a crucifié un sur la croix et que péniblement, je ne sais pas s'il a facilement tourné la tête vers Jésus, mais qui lui a dit « Souviens-toi de moi », eh bien, il a entendu la réponse « Oui, aujourd'hui, tu seras avec moi ». Vous connaissez l'histoire. Qui que vous soyez, si vous cherchez Jésus, vous allez le trouver. Cela est vrai, parce que c'est écrit dans la Bible. Et qui que vous soyez, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est parce que vous ne l'avez pas encore cherché. Mais si vous cherchez Jésus, vous le trouverez. D'abord, il y a un très beau verset dans Lamentations de Jérémie 3, 25, où il est écrit ceci, « Tu as de la bonté pour l'âme qui te cherche. » Lorsque quelqu'un se met à chercher Dieu, il y a de la bonté dans le cœur de Dieu, dans le regard de Dieu, dans le sourire de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dieu a de l'affection pour les gens qui le cherchent. Dieu a du plaisir de voir que quelqu'un le cherche. Oh, si quelqu'un ce matin veut chercher le Seigneur, s'il y a un chrétien qui va aller plus près avec lui, avancer plus près du Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entre pour la première fois et qui dit « Mais moi je vais chercher ce Jésus », eh bien il a de la bonté. Oui, tu as de la bonté pour ceux qui te cherchent. Qui est invité à chercher le Seigneur? Là, je voudrais que nous fassions une lecture, s'il vous plaît. dans 2 Chroniques au chapitre 15. 2 Chroniques, nous allons lire les 7 premiers versets. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria, c'était un prophète, alla au-devant d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Le tableau est le suivant. Voilà un prophète qui est envoyé par Dieu pour s'adresser à tout le peuple. Vous pouvez le relire. Il s'adresse à tout le peuple. Ça concerne le moindre habitant de la ville ou de la région, le moindre passant dans la rue, le moindre auditeur dans le temple. Tous. Et il le souligne. Écoutez-moi, vous tous. Le roi, les sacrificateurs, les chefs et les gens de la rue. Et Dieu a dit à ce prophète, va leur parler et va leur dire qu'il est temps de chercher l'Éternel, parce qu'ils sont en train de s'enfoncer. Quand on ne cherche pas l'Éternel, on s'enfonce. C'est le processus que nous avons lu dans Sophonie qui se met en marche et qui termine par l'adoration de Baal. Et non seulement ils sont en train de s'enfoncer, mais ce que le prophète dépeint nous rappelle quelque peu les prophéties concernant la fin des temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais vous les relire. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Ils en étaient là, ces gens. Ils en étaient venus à se faire à la guerre, à s'affronter. Ils vivaient dans le trouble. Les mots qui sont repris, c'est le mot « longtemps ». Il y a longtemps. Peut-être que dans la salle, il y a quelqu'un qui peut dire « Moi, il y a longtemps que je n'ai pas cherché Dieu. » En fait, je ne l'ai jamais cherché. Peut-être qu'il y a longtemps qu'un chrétien ne cherche plus Dieu. Eh bien, je crois que je suis autorisé de la part du Saint-Esprit à vous dire, même s'il y a longtemps, on peut tout de suite reprendre à zéro ce qui se reprend à zéro. On peut à nouveau chercher Dieu. Ne laissez pas le processus se compliquer, ne laissez pas les choses se détériorer, ne laissez pas Satan vous entraîner. Vous avez vu, de pas en pas, Sophonie nous a montré qu'ils ont progressé dans l'iniquité. Même s'il y a longtemps, Dieu vous appelle à le chercher aujourd'hui. Longtemps. Sans Dieu, c'est écrit. C'était pourtant le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu sans Dieu. Comme aujourd'hui, le peuple christianisme est un peuple christianisé sans Christ. Il n'y a pas de Christ dans les cœurs. Sans Dieu, sans enseignement, dans l'illégalité, sans loi, dans l'insécurité, dans les troubles, dans la violence, dans les affrontements et dans les angoisses. Je vous l'ai lu. Ils en sont venus là, dit le prophète, uniquement parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu. Vous êtes bien d'accord avec moi, je le suppose. C'est exactement ce que le prophète dit. Ça n'est pas parce qu'ils ont promulgué une loi qui était de travers, ça n'est pas parce qu'il y avait un roi qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est parce que le peuple, dans son entier, n'a pas cherché Dieu. Et tous ensemble, ils ont pris le chemin de Baal, tous ensemble. Et quand on ne s'occupe pas de Dieu et qu'on ne cherche pas Dieu, eh bien, viennent les troubles, viennent les affrontements, viennent les violences. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des violences sur la terre aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de chrétiens sur la terre? Parce que les hommes ne cherchent pas Dieu. Si les hommes cherchaient Dieu, il n'y aurait plus de violence. Mais quand la Bible dit, sache que dans les derniers temps, les hommes deviendront violents, qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des affrontements entre villes, entre royaumes, entre pays, eh bien, il est sous-entendu, mais c'est presque pas sous-entendu, tellement c'est clair, que c'est parce que les hommes ne chercheront pas Dieu. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de Dieu et qu'ils progressent vers l'iniquité, au fur et à mesure le trouble s'empare d'eux, les angoisses s'emparent d'eux, et le monde est un monde qui est livré à l'angoisse, au trouble, à la guerre et au péril, parce que c'est un monde qui ne cherche pas Dieu. Mais qu'un chrétien ne pense pas que s'il ne cherche pas Dieu, lui, parce qu'il l'a cherché une fois, il a rempli sa mission. Peut-être qu'un chrétien va dire, mais moi j'ai cherché Dieu. Donc le travail est fait. Comme quelqu'un qui dirait, j'ai planté un arbre, il est là l'arbre. Et oui, mais il est écrit dans la Bible, cherchez l'Éternel en tout temps. C'est écrit. Cherchez l'Éternel en tout temps. C'est-à-dire que un enfant qui commence sa vie doit chercher Dieu. Une personne âgée qui termine sa vie, doit encore chercher Dieu. Et dès l'instant que nous ne cherchons pas Dieu, nous amorçons aussitôt, écoutez bien, dès l'instant que nous ne cherchons plus Dieu, nous amorçons aussitôt la procédure qui nous éloigne de Dieu et qui, de pas en pas, va nous rapprocher des faux dieux. Dès l'instant que nous ne cherchons plus Dieu. Et le prophète qui est venu ici est chargé de dire à tout le peuple, eh bien, même avec cette configuration lamentable, même avec ces données épouvantables que vous vivez, même avec ces résultats désastreux dans lesquels vous êtes, il est temps de chercher l'Éternel. Quel espoir, frères et sœurs! Quel espoir! Supposez qu'il y ait dans cette salle une famille où il semble que tout est en train d'éclater. Ils ne savent plus du tout où ils en sont. Ils ne savent plus du tout où ils vont. Ils se sont dit tant de choses. Il y a eu tant d'affrontements, tant d'angoisses, tant de troubles. Et ils disent, il n'y a plus de solution. Il est temps encore de chercher l'Éternel. Parce que quand on cherche l'Éternel, on revient au pied de Dieu. Et on retrouve la présence de Dieu. Et on revient au psaume 23. Et on retrouve les promesses du psaume 23. Et on revient à Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et Dieu vous bénira dans ce dont vous avez besoin d'être béni, dans la santé, dans vos biens, dans les choses qui se détraquent. Dieu vous bénira et Dieu vous aidera. Le prophète leur dit, oui, la configuration est désastreuse. Oui, vous êtes dans un état malheureux, mais il est temps de chercher l'Éternel. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Frères et sœurs, il faut chercher le Seigneur. Il faut le chercher. Il triche le monde avec nous. Il triche, il nous dit, mais tu as cherché le Seigneur il y a quelques années. C'est fait. C'est fait, mais il faut encore le faire. Parce que mon dernier point, qui sera ma conclusion, peut-on faire marche arrière quand on a cherché Dieu et redevenir indifférent? Est-ce qu'il est possible à une personne qui avait souci pour Dieu, qui s'enquérait de Dieu, qui cherchait Dieu, qui aimait Dieu, qui priait Dieu, est-il possible à cette personne de redevenir indifférente et de se retrouver embarquée dans le processus d'iniquité que Sophonie, il fallait dire Sophie, Sophonie nous décrit si bien le processus qui nous entraîne de pas en pas, le cœur qui va se partager, le cœur qui va s'idolâtrer, le cœur qui va s'établir des faux prêtres qui lui présenteront de faux dieux. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, hélas, dès l'instant que quelqu'un revient à l'indifférence, il revient sur ce tapis roulant qui ne demande qu'à l'entraîner à nouveau vers un lieu de perdition. Cela est possible. Dès qu'un croyant laisse entrer l'indifférence dans son âme, il amorce aussitôt la progression vers la rétrogradation. Lisons Luc chapitre 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. C'est Jésus qui le dit. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça, ce sera ma conclusion. Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps. Et puis, il est écrit dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, je crois bien que c'est le verset 29, mais Exode chapitre 4, veillez attentivement sur vos âmes. Notre âme, ce n'est pas une chose que nous réglons une fois, ça y est, c'est réglé. C'est tous les jours de notre vie. Restons fidèles au Seigneur, restons veillants, restons vigilants. Restons les yeux ouverts, prêts. Jésus dit, soyez dans l'état d'esprit. Pierre dit, soyez dans l'état d'esprit d'un homme qui est prêt à partir et qui a mis sa ceinture, c'est-à-dire il est habillé, il est prêt à partir. Soyez dans l'état d'esprit de cet homme. Dès l'instant qu'il est prêt à partir, eh bien, déjà, il pense, il regarde, il consulte sa montre pour ne pas oublier l'heure à laquelle il doit s'en aller. Il est veillant, il est vigilant. Jésus dit, soyez vigilants, soyez vigilants. Comme je voudrais que de nombreuses églises sur la terre reviennent à la vigilance. Entendre le Seigneur Jésus dire, veillez et priez. Veillez, mais veillez, ça veut dire quoi, veillez? Ne vous endormez pas. Empêchez-vous de dormir. Est-ce que c'est ça que veut dire le Seigneur? Veillez, priez, mettez le réveil toutes les heures pour qu'il vous sorte du sommeil. C'est ça que Jésus a voulu dire. Veillez, priez, ça veut dire soyez attentifs. Comme si on disait à une personne, si le médecin vous avait dit, vous savez, votre état de santé, ça peut durer très bien, longtemps comme ça, mais surtout, veillez à ne pas prendre un kilo. Alors qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Je vous vois tous les jours sur la bascule. Je vous vois tous les jours monter sur la bascule. Ah. Il a dit, veillez à ne pas prendre un kilo. Veillez, c'est un appel à beaucoup de circonspection, un appel à beaucoup de prudence, un appel à analyser les données actuelles, parce que c'est important pour les choses à venir. Et c'est ça que Jésus a voulu dire, veillez et priez. Eh bien, veillez, c'est que je ne m'endorme pas, que je ne fasse pas marche arrière. Veillez le jour où j'ai plus envie de prier, mais il y a un problème. Des fois, je n'ai pas le temps de prier. Vous pouvez ne pas avoir le temps de prier. Des fois, vous avez le droit d'avoir du souci, et puis vous priez, mais votre esprit est vagabonde et vous n'arrivez pas à poser votre esprit sur un sujet précis. Mais ça peut arriver, cela. Mais si c'était toujours comme ça, si vous n'arriviez plus à vous approcher de Dieu, si vous n'arriviez plus à parler à votre Père, si vous n'arriviez plus à lui dire quelque chose de sensé, si vous n'arriviez plus à sentir sa présence, bien, des fois, on ne sent pas du tout la présence de Dieu. On a besoin de savoir qu'il est là, dans la pièce où on est, parce qu'il l'a promis. Mais quelquefois, votre cœur est réchauffé par sa présence, votre âme est rassérénée, vous êtes heureux, vous sentez que le Seigneur est là. Mais si vous vous rendiez compte qu'il y a un mur entre Dieu et vous, et puis l'espace grandit de plus en plus, la distance croît de plus en plus, et vous êtes en train de vous éloigner de Dieu, si vous vous rendiez compte que les choses de Dieu ne vous intéressent plus, attention, c'est l'indifférence qui est revenue. Et l'indifférence, Sophonie nous dit où ça conduit. Nous allons le relire et prier pour que le Seigneur nous raccompagne. Jésus dit, Dieu dit, j'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. C'est normal, Baal, il a raison. Le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, c'est-à-dire les idolâtres. Ceux qui se prosternent tantôt en jurant par l'Éternel, tantôt en jurant par leur roi, ceux qui ont un cœur partagé, ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Ben oui, c'est normal aussi. Ils avaient opté pour l'Éternel, maintenant, ils disent partout que ça ne valait rien et ils se sont détournés de l'Éternel. Ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas, qui ne s'enquièrent pas de lui, qui n'ont pas de soucis, ils sont devenus indifférents. Seigneur, garde-nous de l'indifférence. Seigneur Jésus, j'aurais tant voulu que tous mes frères et sœurs, après avoir entendu ce que je viens de dire, aient envie de chercher le Seigneur. J'aurais tant voulu, Seigneur, que ton message pénètre le cœur et que une personne dans cette salle se dise « Je ne l'ai jamais cherché, je vais le chercher. » Qu'une autre se dise « J'ai cessé de le chercher, je vais recommencer à le chercher. » Qu'une troisième se dise « Je vais être prudent afin de ne jamais omettre de le chercher. » J'aurais tant voulu que ton esprit agisse et que non seulement cette église, mais tous ceux qui auront l'occasion de passer cette cassette dans leur maison, de l'écouter, que tous, partout, des gens se disent « Non, je ne quitterai pas le Seigneur, non, je ne m'éloignerai pas du Seigneur, je veux rester auprès de lui, qu'il me garde de l'indifférence, qu'il me garde. Seigneur, garde-nous de l'indifférence. » Garde-nous les uns et les autres, afin que lorsque tu reviendras, tu nous trouves prêts, tu nous trouves veillants et priants. Nous te le demandons et je te le demande spécialement pour chacun et chacune ici. Amen. Je te prie, Seigneur, de nous raccompagner. Je te prie de bénir le retour de tes enfants, de les bénir et de nous permettre de ne pas mettre de côté trop rapidement ce message, mais de le repasser dans nos cœurs pour ta gloire. Amen.